souriez, vous êtes recruté. By Deloitte, le podcast qui vous aide à être le meilleur candidat.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Souriez, vous êtes recruté, le podcast qui, au Maroc, vous donne les meilleurs conseils pour être le meilleur candidat. Je suis Mélanie Benali, directrice des ressources humaines chez Deloitte, et aujourd'hui, avec mes invités Ahmed Chebbi et Cheyma Mouagir, nous allons parler du syndrome de l'imposteur et comment le dépasser pour être encore plus efficace et booster votre carrière. A tout de suite pour l'épisode. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Cheyma. Ça fait un bout de temps, Cheyma, qu'on n'a pas enregistré un podcast ensemble.
Effectivement, bonjour à tous.
Et notre fameux influenceur Ahmed Chebbi. Bienvenue Ahmed.
Merci Mélanie.
Alors dis-moi Ahmed, combien de followers sur LinkedIn ?
Bah, très proche de toi, sur les 62 000.
62 000, donc on n'est plus qu'à une centaine de followers de différence. Je vais bientôt enfin rattraper Ahmed Chebbi. Et comme je lui ai dit, je ne sais pas ce qui va me motiver à me lever le matin quand j'aurai enfin dépassé le nombre de followers d'Ahmed. Mais on trouvera de nouveaux challenges ensemble. Bon, super. Cet aparté est en fait, on est ensemble aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est un sujet important. Et je suis curieuse de voir comment vous allez l'aborder, parce que c'est un sujet qui peut toucher tout le monde, qui est le syndrome de l'imposteur. Vous allez nous le définir. Mais c'est vrai que moi, j'ai plusieurs dizaines d'années d'expérience derrière moi, et c'est des fois quelque chose qui revient, même avec l'expérience, la confiance, les responsabilités. On a parfois l'impression de ne pas être à sa place. Donc, je suis curieuse de voir, de votre point de vue, ce qu'on peut faire pour pouvoir dépasser ce syndrome de l'imposteur et pouvoir booster sa carrière. Alors, pour commencer, est-ce que Cheyma, tu peux nous définir ce qu'est ce fameux syndrome de l'imposteur ?
Bien sûr. Alors, avez-vous déjà ressenti une sensation persistante de doute sur vos compétences et votre légitimité malgré vos succès professionnels ou privés? Alors, je suis sûre que beaucoup d'entre vous vont s'identifier là-dessus. C'est ce que l'on appelle le syndrome de l'imposteur. Donc, c'est comme se sentir un imposteur dans son propre succès. Donc, c'est bizarre, mais ça existe, et beaucoup plus qu'on ne le croit. Alors, au travail, ce syndrome se manifeste lorsque quelqu'un éprouve constamment l'impression de ne pas mériter sa position ou ses succès professionnels, même s'il est compétent et accompli dans son domaine. D'ailleurs, contrairement à ce que l'on pourrait croire, les employés qui occupent des postes à responsabilité, enfin des postes en management par exemple, sont davantage susceptibles de souffrir de ce syndrome que les autres. Mais en réalité, ce syndrome ne s'agit que d'un conflit entre la perception que l'on se fait des autres et la façon dont on se perçoit soi-même. Alors, je vais vous donner un exemple, le perfectionnisme. C'est un type du syndrome de l'imposteur. Donc, le perfectionniste cherche toujours à atteindre la perfection dans tous les aspects de sa vie. Donc, la moindre erreur lui apparaît comme un grand échec, et même s'il atteint finalement le succès après avoir commis quelques erreurs, ce qui est tout à fait normal, son succès lui semblera toujours immérité. On a aussi l'expert qui, lui, a fait beaucoup d'études mais pense toujours ne rien savoir parce qu'il ne sait pas tout. Pour lui, il faut tout savoir pour être légitime. Donc, ça peut être inconscient. Évidemment, ça peut le mettre dans un état d'anxiété et lui donner l'impression qu'il est un imposteur également. En tout cas, sachez que le syndrome de l'imposteur est loin d'être marginal. On estime aujourd'hui que 70% des personnes à l'échelle mondiale seraient touchées au cours de leur vie par ce trouble. C'est pourquoi il est important d'en parler et y trouver des solutions.
Bon, super, merci beaucoup. Avec ces quelques chiffres, Cheyma, déjà, tu nous rassures. Et effectivement, c'est le sentiment parfois de ne pas être à sa place, de croire que le succès ou la position qu'on occupe est liée à la chance, plutôt que de se faire confiance et de réaliser que bah, finalement la chance, on la provoque, hein, surtout dans le domaine du travail. Et puis avoir peur d'être démasqué, que tout le monde se rende compte que finalement on n'est pas à la bonne place, et d'où les dérives que tu as exprimées, d'en faire toujours plus. Et ça développe d'autres caractéristiques comme celui qu'on appelle de la bonne élève ou de la chic fille. Et c'est souvent conjugué au féminin parce que c'est un syndrome qui est plus féminin que masculin, parce que ces messieurs ont plus tendance à gagner confiance en eux, et c'est quelque chose sur lequel on doit travailler, mesdames qui nous écoutent, et puis ça peut toucher également quelques messieurs. Sur ce, Ahmed, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence ?
Yes, bien sûr, Mélanie. En abordant le syndrome de l'imposteur, je préfère en parler en deux temps. La première partie, c'est quand on est en poste. Et la deuxième, les deuxièmes conséquences du syndrome de l'imposteur, c'est quand on est en recherche d'emploi. Donc, quand on est en poste, le syndrome de l'imposteur peut causer une diminution de la confiance en soi. Comme on dit tous, on est ce qu'on pense continuellement de nous, ce qu'on pense nous-mêmes continuellement de nous. Et donc, si on pense qu'on n'est pas dans notre place et qu'on est dans une position qu'on ne mérite pas, automatiquement, ceci va se refléter sur notre confiance en soi et sur notre capacité à faire les choses correctement. Le deuxième point, c'est le stress et le burn-out. Donc, logiquement et naturellement, quand on croit qu'on n'est pas dans notre place, on est stressé par les responsabilités qu'on a, on est stressé par les assignments qu'on a et on a tendance à overthinker des situations qui sont pour nous au-delà de notre niveau de compétence, ce qui peut ne pas être vrai. Le troisième point, c'est le perfectionnisme et la procrastination. Et c'est un point qu'a abordé d'ailleurs Sheima. Les personnes atteintes de ce syndrome ont tendance à faire les choses à la dernière minute ou bien à trop faire les choses. Et finalement, toujours sur ce premier bloc de conséquences quand on est en poste, il y a des conséquences sur l'aspect relationnel. Généralement, les personnes atteintes de ce syndrome, elles ont tendance à essayer toujours de montrer qu'elles ont raison, jusqu'au point où nuire à leur relation avec les autres par le fait qu'elles deviendront défensives dans la communication. Donc ça, c'est le premier bloc de conséquences. La deuxième partie, c'est quand on est en recherche d'emploi. Et donc là, généralement, quand on est atteint de ce syndrome, on n'est pas capable de se lancer dans de nouveaux défis, tout simplement parce que on estime qu'on n'est pas dans une comfort zone, mais on est dans une position qu'on a eu grâce, comme on dit, fake it until you make it. On a essayé de fake la situation jusqu'à atteindre cette position, et donc on sait très très bien qu'on peut pas aller au-delà, même en passant des entretiens ou en s'inscrivant dans des process ailleurs. Et on a généralement tendance à rechercher des jobs qui sont au-dessous de notre niveau de qualification. Donc ça, c'est le deuxième point et c'est un point qui est très, très dangereux.
Et on vous a fait un podcast sur ce sujet-là, justement, d'oser se positionner sur des postes qui sont un peu plus grands que vous parce que ça vous aide à grandir.
Tout à fait. Et le troisième point, c'est de ne pas être capable de défendre ses expériences et ses réalisations. Parce que si nous, on pense qu'on est là, alors qu'on ne mérite pas, automatiquement, on ne pourra pas défendre cette position devant un interviewer. Et finalement, et ça c'est quelque chose qu'on a presque souvent avec les personnes atteintes du syndrome de l'imposteur quand ils s'inscrivent à notre process de recrutement, c'est que soit ils abandonnent le process au milieu ou bien ils se désistent vers la fin, tout simplement parce qu'ils réalisent qu'ils ne pourront pas assurer et que leur position actuelle, elle n'est pas méritée, mais pourtant ils y sont déjà.
Bon, et là... Pour les candidats qui peuvent avoir ce sentiment-là, on vous rassure, hein, nous, en qualité de professionnel RH, on ne cherche pas des gens qui ont 10 sur 10 à tous les critères et qu'on fait tout pareil que ce qu'on demande ailleurs, parce que justement, ça freine leur progression dans l'entreprise, parce qu'ils ont quasiment atteint tous les objectifs déjà qu'on va leur confier dans le cadre de l'entreprise et on ne va plus pouvoir les accompagner. Et quand on recrute quelqu'un, on le recrute à minima sur le moyen terme. Et on veut pouvoir le faire progresser et on l'accompagne dans le cadre de l'entreprise pour le monter en compétences. Donc, on a plutôt intérêt de prendre quelqu'un qui a 60-70% des compétences requises et qu'on va accompagner, que ce soit sur les soft skills ou sur les hard skills, sur ce qui est attendu dans le cadre de l'entreprise. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, on va continuer sur une note positive avec Sheima qui va nous donner... quelques clés, alors c'est pas magique, hein, c'est un process de long terme, mais quelques clés pour se mettre en confiance et dans de bonnes dispositions face à ce syndrome de l'imposteur.
Alors, je commencerai par la conscience. Donc, reconnaître que l'on ressent ce syndrome est en toute évidence la première étape. Ensuite, il faut faire ce que l'on appelle un recadrage mental. Enfin, autrement dit, remplacer vos pensées négatives par des affirmations positives. Et surtout, concentrez-vous sur vos compétences et accomplissements. Fixez également des objectifs réalistes et apprenez à célébrer vos petites victoires. Parce que c'est bien d'être reconnu par les autres, mais c'est aussi important de se reconnaître soi-même et être fier de soi. Et essayez aussi de transformer votre relation avec l'échec. Il faut que vous compreniez que l'échec est une étape tout à fait normale de tout parcours professionnel. Si vous n'échouez pas, c'est que vous ne vous challengez probablement pas. Et enfin, je pense qu'il serait très utile de vous trouver un mentor, peut-être un manager avec lequel vous travaillez, qui vous rappellera toujours l'importance de vos succès précédents et qui vous motivera lorsque vous aurez de grands projets à gérer. Donc voilà mes quelques conseils que j'ai moi-même appliqués d'ailleurs, parce que moi aussi je suis concernée par ce syndrome. Si vous vous
on
en
a dit 70% des gens, donc voilà, on est quatre autour de la table avec notre ingé son, il suffit de faire les calculs.
C'est ça, donc je pense que si vous arrivez à vous en débarrasser, ou au moins réduire l'impact de ce syndrome sur vous-même, votre bien-être au travail augmentera significativement.
Bon, super, merci beaucoup. Et donc Ahmed, vu qu'on ne peut pas finir un podcast avec Ahmed sans avoir une digression sur le métier de la tech, est-ce que tu peux nous illustrer un peu ce syndrome et les conséquences que ça peut avoir avec un exemple concret?
Bien sûr, Mélanie. En fait, je parlerai de ce syndrome pas seulement dans le métier de la tech, mais dans tout métier où il y a une innovation continue. Donc, dans ces métiers-là, généralement dans le métier, par exemple, de la tech, comme un premier exemple, on assiste toujours à des frameworks nouveaux, on assiste toujours à des solutions et à des outils nouveaux qui vont transformer des métiers en quelques mois. Je prends un exemple par exemple des data engineers. Avant, on parlait d'une hot skill qui était Snowflake. Donc, recruter ou bien trouver quelqu'un qui a cette compétence de Snowflake, c'est quelqu'un qui sera vraiment hyper demandé sur les projets. Aujourd'hui, c'est le cloud. Donc, c'est ce switch entre Snowflake et AWS Azure GCP qui fait que plusieurs personnes vont se retrouver en train de mettre à jour leurs connaissances et de ne pas être à bout de la nouvelle solution qui est le cloud. Et de ce fait, c'est là où naîtra le syndrome de l'imposteur. C'est là où ces gens-là, ils vont se retrouver dans un domaine qu'ils ne faisaient pas auparavant, qu'ils ont appris durant les 6 derniers mois. Ils sont conscients que ça va changer durant les 6 prochains mois. Et donc, ils essaient d'accumuler le plus rapidement possible des connaissances et des compétences pour pouvoir gérer les projets dans lesquels ils sont. Et finalement, ils vont se sentir en position d'imposteur. Le deuxième point qui est toujours dans le domaine de la tech, c'est l'exigence élevée qui alimente ce syndrome. Parce que, comme on le dit, on recherche toujours des hot skills, des high skills. Pourquoi on les recherche? Parce que peut-être pour ce projet-là, on a besoin d'un tel niveau de compétence, mais pour qu'on arrive à mettre la personne sur d'autres projets et dans d'autres contextes, on a besoin à ce qu'elle ait un certain nombre de compétences généralistes. Et donc, le fait que la personne doit être à la fois spécialiste sur quelques technos et généraliste sur d'autres et devenir un jour spécialiste sur la technologie dans laquelle on la mettra sur tel ou tel projet fera que ce syndrome, il se trouvera alimenté encore et encore avec ces situations. Le deuxième point, c'est la comparaison avec les pairs. Et cette comparaison, d'ailleurs, je l'ai observée et mon expérience m'a montré que les gens qui sont un peu généralistes, par exemple, qui travaillent dans des domaines un peu software engineering ou bien dans la data de façon très, très générale, ils se comparent toujours à des spécialistes dans leur spécialité. Donc moi, je maîtrise plusieurs briques, je maîtrise plusieurs domaines, mais je me compare aux consultants cloud dans les services data qui utilisent le cloud, par exemple. Et cette comparaison créera aussi le syndrome de l'imposteur quand on est en train de travailler, par exemple, dans la data sur le cloud ou bien dans le software engineering sur le cloud. Et là, je l'appelle le syndrome de l'imposteur situationnel. C'est en fonction de la situation, bien en fonction de la technologie dans laquelle on travaille. Et finalement, il y a un point que nous-mêmes, RH et managers, on crée, c'est les entretiens qui contiennent beaucoup de tests et beaucoup de coding games, et qui font que la personne, elle se retrouve, ou bien elle est en attente d'elle à ce qu'elle soit experte dans plusieurs choses pour qu'elle arrive à solutionner les tests et les entretiens qu'on lui envoie. Et ça aussi, ça alimente le syndrome avant même qu'elle intègre la structure. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui se manifeste dans le domaine de la tech, mais aussi dans les autres domaines qui ont ces caractéristiques-là. Ce que je voulais envoyer comme message à ces personnes-là, c'est que c'est un peu normal dans votre domaine d'avoir cette sensation. Et il faut faire la différence entre quand on est généraliste et quand on est spécialiste, et entre quand on est amené à faire une amélioration de notre compétence dans un contexte donné, versus quand on travaille sur un projet très très stable et pour lequel on a toutes les compétences et toutes les capacités.
Moi, ce que je retiens de ce que tu as dit, Ahmed, c'est que finalement, on est dans un apprentissage continu. Et en fonction du projet, des missions, des objectifs qui vous sont confiés, c'est normal que vous n'ayez pas tout de suite toutes les compétences pour pouvoir y répondre. Et qu'il faut sortir de sa zone de confort.
Et accepter le syndrome.
Accepter, apprendre Et puis, on a aussi cette comparaison avec les pairs. Mais si je mets ma casquette de manager, c'est aussi un gage d'efficacité que d'avoir dans une équipe des personnes qui sont différentes. Parce que si on n'a que des clones, on perd en diversité, en regard différent. Quand on fait des brainstorming, tout le monde pense de la même manière. Donc finalement, c'est pas parce que vous êtes différent de votre voisin que vous êtes plus ou moins bien. C'est important d'avoir des équipes qui soient mixtes, qui soient diverses, qui viennent d'horizons différents. Et aussi chez Deloitte, si on prend l'exemple de notre structure, on est dans un cursus qui peut ressembler à l'école parce qu'on a nos grades avec nos intergrades et notre envie d'évoluer année après année. Et l'acquisition d'un nouveau grade est aussi une certaine reconnaissance. Mais finalement, on peut reprendre le parallèle avec l'école. Hein. On est dans une course de fond. Quand on passe consultant, senior, manager, on espère qu'à manager, vous avez moins de 10 ans d'expérience. Donc, sur la carrière de 30 ans ou de 40 ans que vous avez à construire, ce n'est qu'une petite étape. Donc, finalement, chacun va à son rythme. Et puis, il y en a qui peuvent rester plus longtemps sur des intergrades. Et puis, il y en a qui peuvent aller plus vite. Mais finalement, la carrière, elle va durer 40 ans. Donc, il faut garder de l'endurance pour pouvoir tenir sur la longueur. Eh bien, écoutez, c'était un podcast qui se voulait philosophique, mais on espère qu'on vous aura quand même donné des conseils concrets et puis qu'on vous aura aidé à gagner en confiance en vous, que ce soit dans votre process de recrutement ou que ce soit dans votre quotidien dans le cadre de l'entreprise. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup. Prochain podcast avec Ahmed, je t'aurai dépassé, c'est ça ?
J'espère.
Et donc, on vous remercie d'être assez nombreux à écouter notre podcast. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur le LinkedIn de Deloitte, on pousse régulièrement de l'actualité, mais aussi sur nos LinkedIn perso, Shaima Mouagir, Ahmed Chabi, Mélanie Benali. Et si vous êtes intéressé pour rejoindre notre structure, n'hésitez pas à consulter nos annonces sur LinkedIn ou sur recrute.com. Et à très bientôt pour un nouvel épisode.
Écoutez Souriez, vous êtes recruté sur toutes les plateformes de podcast. Souriez, vous êtes recruté, le podcast by Deloitte depuis les bureaux de Casablanca.